tout le monde s'accorde à dire que investir dans la santé maternelle, néonatale et infantile est un investissement utile. Et cette préoccupation a été partagée par tous les participants comme une préoccupation de santé publique, certainement la préoccupation majeure. Et nous avons retenu que l'USAID reconnaît que les États doivent avoir le leadership. Ça veut dire que l'aide doit s'insérer dans le dispositif national de la santé publique. Bien entendu, il faut s'accorder sur la pertinence des objectifs et des stratégies. Cette rencontre a été l'occasion de comparer les stratégies des différents pays et les uns ont tiré les leçons des réussites qui ont eu lieu par-ci et par-là.
Est-ce qu'il y a une stratégie particulière qui vous a frappé et que vous comptez utiliser de retour au Mali?
Bon, nous avons été renforcés dans notre conviction que la nutrition est un volet essentiel de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale et infantile. Nous avions l'expérience de la vaccination. Je crois que le Mali a réussi de bonnes performances avec son programme élargi de vaccination. Ce qui n'a pas été, par contre, suffisamment mis en exergue, c'est la nutrition. Et nous avons été convaincus que la nutrition est un complément indispensable de la stratégie.
Et justement, récemment au Mali, vous avez annoncé des initiatives pour lutter contre la malnutrition qui reste un gros problème.
Absolument. La nutrition reste un gros problème. Nous l'avons diagnostiqué et nous avons fait adopter par le gouvernement une politique nationale de nutrition depuis janvier 2013. Et donc, un comité technique a été mis en place pour élaborer un plan stratégique pour la mise en œuvre de ces orientations. Et récemment, le plan stratégique a été adopté par le Conseil national de la nutrition.
Alors, ce problème de malnutrition, est-ce qu'il est plus aigu dans les régions isolées, dans les villes, ou est-ce qu'il concerne toutes les populations?
Je crois qu'il concerne toutes les populations et contrairement à ce que l'on peut penser que les régions du sud sont à l'abri de la malnutrition, non, pas du tout. Au contraire, il a été établi que ce sont ces régions qui sont souvent piégées, qui tombent dans le piège de la malnutrition.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Les habitudes alimentaires font que on se préoccupe souvent de la quantité d'aliments plus que de la qualité de l'aliment. Et notre politique vise justement à éduquer les populations dans le sens d'une bonne combinaison des aliments.
Pour qu'il y ait un apport en vitamines suffisant.
Pour qu'il y ait un apport suffisant en nutriments et pour l'équilibre de la ration.
La santé maternelle reste un sujet très préoccupant. De ce côté-là, qu'est-ce que votre ministère envisage?
La santé maternelle ne peut pas être traitée indépendamment de la santé infantile et néonatale. Nous mettons tout ça ensemble et nous avons un ensemble de mesures que le gouvernement a adoptées depuis longtemps et par rapport, par exemple, à la mortalité maternelle. Il a été constaté que beaucoup de femmes meurent en accouchant pour des causes qui sont évitables. Il y avait parmi les causes l'insuffisance des consultations prénatales. Donc il y a toute une panoplie de mesures visant à éduquer les femmes, à les inviter à observer ces consultations prénatales. Et il y a également l'assistance à l'accouchement. Et nous faisons en sorte que les femmes en couche puissent être assistées par une personne expérimentée. Et en cas de complication à l'accouchement, le recours à la césarienne est une solution que le gouvernement a facilitée en accordant la gratuité de cette opération.
Est-ce que vous songez à développer les programmes de sages-femmes qui peuvent être très utiles justement pour mieux suivre les femmes vers la fin de la grossesse et faciliter l'accouchement?
Bien sûr, la formation des sages-femmes et l'utilisation des sages-femmes sont des mesures qui sont dans le paquet des mesures que nous envisageons. Nous avons quelques difficultés quant à la répartition spatiale. Il y a le nombre qui est un aspect et je crois que malgré que le nombre est insuffisant, il est quand même regrettable de constater que ce nombre insuffisant est très mal réparti. Il y a une concentration au niveau de la capitale et nous essayons de mettre en place des mesures incitatives pour essayer de fixer le personnel dans les zones considérées comme relativement difficiles.
Et en fait, c'est peut-être aussi les zones où elles sont le plus nécessaires.
Et les plus nécessaires, bien entendu, parce que le service de santé se ramène peut-être à un effectif très réduit. Et donc, le rôle de la sage-femme est très primordial dans
oui.
cette zone.
La vaccination a été entravée, bien sûr, par les troubles politiques qui ont secoué le Mali. Alors, depuis, est-ce qu'elle a pu reprendre dans des conditions satisfaisantes?
Oui, il y a eu la perturbation de tous les services de santé dans une partie du Mali du fait de conflits armés. Néanmoins, la vaccination n'a pas été suspendue. Nous avons continué les efforts grâce aux ONG et certains partenaires aussi ont contribué à travers les actions humanitaires à poursuivre les services essentiels de santé. Bien entendu, le déplacement des personnels, le déplacement des populations a constitué une difficulté majeure parce qu'il y a des populations qui n'étaient pas sur place, que certains s'étaient déplacés à l'intérieur du pays. Il y en a d'autres qui étaient allés à l'extérieur. Et donc, malgré la présence d'un certain service de santé sur place, ces populations n'étaient pas joignables. Mais actuellement, les populations commencent à revenir et les services commencent à se mettre en place.
L'Organisation mondiale de la santé et l'ONG Médecins sans frontières ont lancé un cri d'alarme concernant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Est-ce que votre ministère s'est penché sur la question? Est-ce que des mesures sont envisagées au cas où, vu les mouvements de population, un cas d'Ebola se déclarerait au Mali?
L'épidémie d'Ebola est une inquiétude qui persiste encore et n'est pas achevée dans les zones qui ont connu cette épidémie. Et au Mali, nous avons mis des mesures, nous avons pris des mesures aussitôt que le pays qui, en l'occurrence, a été le foyer en Afrique de l'Ouest a signalé l'épidémie. Nous avons aussitôt pris des mesures, pratiquement le même jour, et avec la représentante de l'OMS au Mali et tous les services techniques concernés, et nous avons mis en action, il y a un dispositif national de gestion des épidémies qui avait été créé par décret depuis les années 97 et qui n'avait pas eu l'occasion de l'animer très sérieusement. Et ce dispositif, qui comprend l'essentiel des ministres, a été mis en mouvement dès les premiers jours de l'épidémie. Et des postes de surveillance ont été créés. Nous avons créé également des sites d'isolement pour les cas suspects. Et nous avons effectivement identifié quelques cas de fièvre qui ressemblaient aux symptômes de l'épidémie. Et ces cas ont fait l'objet de prélèvements de sang et d'analyses. Les premières analyses ont été envoyées à Atlanta, au CDC. Et ça a pris à peu près une semaine à 10 jours. Et les résultats ont été négatifs. Et nous avons depuis développé une capacité locale d'analyse avec l'appui du NIH qui a envoyé une mission à Bamako pour compléter les capacités de notre laboratoire Cerefo qui est au niveau de la faculté de médecine et d'odontostomatologie de pharmacie. Et depuis, nous faisons les analyses sur place. Et chaque fois que nous avons un cas suspect, nous pouvons déterminer le résultat au bout de 5 heures.
Très rapidement. Donc, au cas où il y ait urgence, des mesures pourront être appliquées immédiatement?
Absolument. Au départ, nous avons eu des difficultés à identifier les sites d'isolement parce que les populations n'avaient pas compris la maladie et c'était vraiment la panique. Mais dès que les mesures ont été expliquées, je crois que les gens ont compris et les gens suivent les directives. Parce que les directives d'hygiène sont essentielles et le fait aussi de signaler des fièvres aussi constitue une mesure que les populations ont comprise. Et chaque fois qu'il y a un cas suspect, on signale le cas et on explique aux patients que c'est pour son intérêt et l'intérêt de la société. Et donc nous avons actuellement cette facilité d'isoler les personnes sans que ce soit accompagné d'une connotation négative.
Oui.
Je crois qu'on a fait une éducation suffisante, une sensibilisation suffisante pour que les personnes suspectes même ne prennent pas cela avec complexe.
À cause des troubles dans le nord du Nigeria, entre autres, la polio est devenue à nouveau un souci en Afrique subsaharienne. Est-ce que de ce côté-là, vous êtes satisfait de la couverture vaccinale contre la maladie?
Le Mali a été déclaré, je crois, depuis 2008, comme une zone d'élimination certifiée de la polio. Et nous faisons tout pour arriver à l'éradication. Et bien entendu, c'est un défi que nous tenons à relever. Vous avez parlé des difficultés liées effectivement à cette zone du Nigeria. Nous avons connu quelques cas de poliovirus sauvage importés. Mais depuis, je crois que nous pensons que nous allons adopter le nouveau vaccin PVI, c'est-à-dire par vaccin par injection.
Oui.
Inactivé pour compléter la vaccination orale. Et je crois que scientifiquement, il a été établi que cette introduction de nouveaux vaccins est nécessaire pour nettoyer tout autre risque résiduel.
Très bien. Ouais. Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir accompagnés. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter?
Je voulais peut-être informer sur ce que nous sommes en train de mettre en place comme une préoccupation dans le programme de santé du chef de l'État, c'est-à-dire l'accès universel aux soins
oui.
de santé de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les citoyens doivent accéder de façon équitable aux soins de santé de qualité.
Il ne suffit pas de connaître les besoins, encore faut-il pouvoir se faire soigner.
Se faire soigner, oui. Ça veut dire qu'il faut que les gens soient à distance respectable d'un centre de santé, que la qualité des soins soit vraiment de bonne, que les soins soient de bonne qualité et que personne ne soit laissé en marche à cause des difficultés financières. Et pour cela, il y a deux caisses qui ont été mises en place. La caisse d'assurance maladie obligatoire, où tous les salariés sont obligés de cotiser, et qui permet de prendre en charge les salariés et leurs ayants droit. Et puis, l'assistance médicale, qui est une caisse de subvention pratiquement de 2 minutes. Et donc, à la longue, ça permettra à tous, chacun, de se faire soigner sans que la difficulté financière soit une limite pour l'accès aux soins de qualité.